Nous sommes à la fin du mois de janvier 2017. Un jour, il va y avoir Pâques. Et Pâques, ça se prépare. Ça se prépare. On ne peut pas arriver à la fête de Pâques sans avoir préparé dans l'écriture cet événement extrêmement important. Alors, je vais m'attacher pendant quelques semaines à la personnalité de Jésus-Christ. Et comment il nous voit, comment il nous considère. Donc dans Marc au chapitre 6, au verset 30, Marc c'est le disciple de l'apôtre Pierre. Marc n'a pas vécu avec Jésus, mais il a vécu avec Pierre, avec Luc, Paul, etc. On l'appelait aussi Jean-Marc. Hein. Et donc Paul ne le trouvait pas assez bouillant pour foncer, évangéliser, mais Marc a quand même servi Dieu à sa façon, en écrivant cet évangile fidèlement, dans les enseignements de l'apôtre Pierre, et sans aucun doute qu'il a servi Dieu d'une autre manière que Paul. On n'est pas tous les mêmes, on n'a pas tous été de la même façon, on n'a pas tous le même don. Le problème, c'est de s'accepter les uns les autres, c'est pas toujours facile. Il faut beaucoup de sagesse. Marc chapitre 6, verset 30, les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait, tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, ils n'avaient pas même le temps de manger. Donc, il n'y a pas qu'à Luxembourg qu'il y a des bouchons, au matin et au soir, et c'est pas, il n'y a pas que là qu'on perd une heure et demie au matin et au soir, et vous savez, l'affairisme est le propre de l'homme, et l'affairisme c'est le propre du diable aussi. Plus on a la tête en compote, plus on a l'esprit, je dirais, bousillé, moins on peut être en paix, moins on peut se tourner vers Dieu. C'est une des techniques du monde. Depuis que Adam et Ève ont péché, ça, c'est de mettre la confusion. Avec le Seigneur, ce sera tout le contraire, les amis. Regardons le texte. Il y avait beaucoup d'allants et de venants, ils n'avaient pas même le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart, dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller, ils les reconnurent et de toutes les villes, on a couru à pied, on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule, fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger et se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Bon, alors pratiquement, en allant là-bas sur place, j'étais à Capernaum et puis Tibériade, je regardais de l'autre côté de la mer de Galilée. C'est quand même une grande mer, hein, 104 km², on n'en voit pas le bout, mais dans sa largeur, on la voit. Hein. Et on voit donc le versant de l'autre côté, c'est des cailloux, hein, c'est de la terre, c'est très aride, hein, il reste parfois un an sans pleuvoir, mais il y a une tache verte. C'est assez impressionnant, il y a sans doute des sources, des nappes aquifères qui jaillissent là, il y a une tache verte. Et c'était là que, dans l'herbe, les gens se sont assis. Mais de Capernaum, et puis Chorosaïne, etc., tous ces villages, Bethsaïda, ben il y a du chemin. J'ai été habitué à marcher toute ma jeunesse, dans les forêts, les bois, les champs, souvent à pied, aller à vélo à l'école, ben il y a du chemin. Je ne mens pas, il y a certainement bien 20-25 kilomètres. Mais ce qu'il y a, c'est que quand on est là-bas 3 jours pour écouter le Seigneur, pour revenir, où est le casse-croûte? Où sont les magasins, la supérette? Hein? Où est-ce qu'on va pousser un caddie pour aller chercher des courses? Niette, hein? Rien. Hein? Donc il y a une situation. Est-ce que les gens étaient inconscients en allant là-bas? Est-ce qu'ils étaient complètement, c'était tout des déboussolés, tout des paumés, des gens à problème? Non, je ne pense pas. Je pense que ce sont des personnes qui avaient rencontré le Seigneur, avaient déjà rencontré Jean-Baptiste, et avaient rencontré le Seigneur, l'avaient vu guérir des malades, l'avaient vu prêcher sur Capernaum, sur la petite colline à côté, les Béatitudes, Matthieu chapitre 5, ils l'avaient entendu, ils avaient vu Jésus guérir le fils du centurion, ou le serviteur suivant les textes, puis ils avaient vu cette synagogue que le centurion avait permis de construire, et la considération que Jésus avait pour ce centurion, qui était un païen, puis ils avaient vu Jésus guérir la belle-mère de Pierre, dans cette maison, j'ai vu cette maison. Il y a des ruines encore à une certaine hauteur. Et pour qu'on soit dans la même situation, on a fait une dalle en verre, en béton et en verre, avec un escalier. Et quand on monte, on est au-dessus, comme dans la même situation que les gens qui descendaient, le paralytique après, dans la maison. C'était bien pour se représenter ce que ça voulait dire, descendre quelqu'un auprès de Jésus. Bon, cette foule, pour moi, n'est pas sotte, n'est pas folle. Moi, quand je vais en visite, je vais souvent en visite. Je ne considère pas les gens plus bêtes que moi ou fous. C'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Il faut écouter, il faut prendre au sérieux les personnes. Et il ne faut jamais, jamais, même si on entend des bêtises, considérer que l'autre est stupide. C'est une erreur grave qui ne permet pas de comprendre l'autre et qui ne permet pas de le faire grandir et de grandir soi-même. Je vous dis, quand on pointe quelqu'un du doigt, on pointe Dieu en même temps, son créateur, et on se pointe trois fois soi-même. On n'a pas à juger et à condamner. Il faut écouter, il faut regarder la personne. Quand Jésus est là, dans cette foule, il regarde et il est ému de compassion. Qui peut mieux que Dieu nous regarder ? Dieu a créé nos yeux, il a créé nos oreilles, qui peut mieux que Dieu nous entendre ? Et quand nous voyons qu'un aigle qui est à 300-400 mètres de haut a une vue 300 fois plus puissante que nous, un aigle qui voit une petite souris qui sort de la galerie, qui court et qui fonce, un aigle qui a une vue 300 fois plus puissante que la nôtre, c'est qui l'a créé ? C'est bien sûr le Créateur. La vue de Dieu n'est pas la même que nous, il n'y a pas besoin d'une paire de lunettes pour l'améliorer. Il ne fait pas partie des aveugles et des sourds. Et la personnalité de Jésus dans une foule, à mon avis, de la petite expérience que je peux en avoir, la personnalité de Jésus est extrêmement calme, posée, il est maître de soi, et son regard est d'une intensité où vous ne pouvez pas échapper, il vous connaît. Le regard du Seigneur, le Seigneur vous connaît. Ne vivez pas comme s'il ne vous connaissait pas, les amis. Apprenez à lui dire « Tu me connais ». Apprenez à lui dire tous les jours « Tu me connais mieux que moi-même. Tu sais mieux que moi ce qui peut faire mon bonheur, peut faire mon chemin. Seigneur, éclaire-moi. Seigneur, révèle-toi à moi. » Vous voyez, et c'est, je pense, dans cette attitude que ces gens ont pris le risque de partir sans casse-croûte. Et quand on dit qu'il y a 4 ou 5 000 hommes, il y a combien de femmes ? Au moins autant. Et combien de jeunes et d'enfants ? Donc il y avait du monde. Quand j'ai vu cette place-là, là-bas, dans le versant oriental de la mer de Galilée, je me suis dit, on pourrait mettre 20 000, 25 000 personnes là. Ils étaient dans l'herbe. Donc pratiquement, je pense qu'il y avait de l'eau. C'est déjà une chose. Vous savez, dans ce pays, il fait très chaud. Moi, j'y étais au mois d'octobre, il faisait 30 degrés. Et c'était quand même assez dur. Il faut toujours avoir quelque chose sur la tête, des lunettes de soleil, une bouteille d'eau. Et pratiquement, là, il y avait de l'eau. Il y avait de l'eau et de l'herbe. Rien d'autre que le Seigneur Jésus. Qui donnait, par son regard, qui donnait à chacun l'assurance d'être connu. Ils avaient l'assurance d'être connus. Ils avaient l'assurance d'être rencontrés. Jésus les rencontrait. Ce n'est pas un homme politique qui parle. Vous avez déjà regardé les primaires en France à la télévision, hein, comment ils parlent ? Et même que ce soit de gauche ou de droite, regardez comment ça fonctionne. Il n'y a rien à attendre. Ils veulent s'élever. Ils nous donneront des miettes. Et le reste sera pour eux. Pour le Seigneur, il va donner tout pour eux. Il ne gardera rien pour lui. Et cet amour infini dans le regard du Seigneur Jésus, bien qu'il soit, il ait un regard puissant, un regard fort, un regard maître de soi, un regard de, il est bienveillant. il a envie de rencontrer notre cœur, notre âme. Il a envie d'avoir une rencontre personnelle avec nous. Et la compassion de Jésus, longtemps j'ai cru que c'est parce qu'il souffrait, parce qu'ils avaient des mauvais dirigeants, des pharisiens, des sadducéens, parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Il est ému de compassion parce qu'il voit leur pauvreté. Mais je vais vous dire, je pense que quand le Seigneur Jésus, quand vous le rencontrerez, je vous le dis, vous aurez la certitude qu'il vous connaît. Vous n'êtes pas rien. Ce qui est, le jour que vous le rencontrez, vous serez extrêmement triste parce que vous verrez que c'est votre péché qui met un fossé entre lui et vous. Et il ne va pas dire que le fossé est irrémédiable. Il peut le combler, il peut le boucher. Il faut simplement, à un moment donné, qu'on craque, qu'on lâche, qu'on se donne à lui, qu'on accepte qu'il est grand, qu'il est infiniment saint et bon, et qu'il est là pour moi, pour changer ma vie, pour en faire quelque chose de beau, de vrai. Et progressivement, il peut complètement tout changer en moi, avec patience, avec miséricorde. Jésus est patient avec nous. Jésus est extrêmement patient. Mais il a une grandeur en lui. Il souffre de nous voir rester sur place et ne pas changer. Il souffre de nous voir trop attachés à notre péché, à notre glu, à nos vices. Il souffre vraiment. Le regard de Jésus n'est pas un regard de masochiste. Il ne souffre pas parce qu'il a envie de souffrir. Il ne souffre pas parce qu'il ne sait rien faire. Non. Il peut tout faire en moi. Il peut tout faire en moi et il m'aime. Et il ne souffre pas par amour de souffrir. Parce que, si vous lisez dans Colossiens chapitre 1, verset 15, tout a été créé par lui, en lui et pour lui. Il est à l'image de Dieu invisible. Et alors donc, Jésus, s'il a tout créé, lorsqu'il les regarde dans la foule, lorsqu'il me regarde aussi, il les regarde dans la foule, les 25 000 là, les 20 000, eh bien pratiquement, les amis, il dit en lui-même, je viens de te créer. Il y a peut-être 25 ans que tu existes, ou 30 ans, ou 40 ans, je viens de te créer. 1000 ans est comme un jour pour moi. Je viens de te créer. J'ai envie de te rencontrer. Tu es ma créature, et moi je suis ton créateur. Je t'ai créé par amour. Je veux te rencontrer avec amour. Je veux te rencontrer avec vérité. Tu t'es égaré. Viens à moi. Viens à moi. Tu verras, tu entreras vraiment dans le chemin qui te crée. Tu entreras dans le chemin où moi je peux te façonner et te rendre pur et vrai. Jésus vient à cette foule, il est ému de compassion parce qu'il propose un plan de progression, un plan d'avenir à Jésus. Il propose quelque chose de magnifique à chacun de nous. Et il est un berger, vous avez vu dans Marc au chapitre 6, verset 34, ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, j'ai été en montagne pendant plusieurs années quand j'étais jeune, aux environs 30 ans, on partait avec le sac à dos à plusieurs. Et pratiquement, on voyait des taches, on regardait avec les lunettes d'approche, on pensait que c'était de la neige, et c'était 2-3 000 moutons, un côté de l'autre, et qui étaient assis, qui ruminaient, hein, parce qu'ils reprennent la nourriture qu'ils ont mangée. Et puis il y avait le berger, quelque part, on le voyait, et 2-3 chiens. Et puis tout d'un coup, il se levait, il partait, et puis boum, la tache blanche partait. C'est de nouveau la même chose. Les moutons ne vont pas sans berger. Les brebis heureuses, les brebis dans sécurité sont avec un berger. Les brebis folles et les brebis qui ont été habituées sans berger sont cadrées par des règles, par des lois qu'on dit européennes, etc., des lois civiles, civiques, politiques, et les hommes politiques et pratiquement, dès qu'il y a une brèche dans la clôture, ça devient la folie. Hein? Ça devient la folie. Vous prenez pour le permis de conduire, en France, depuis 2 ans, il y a plus d'accidents, eh bien, on est en train de resserrer la vis. On va mettre en Belgique plus de radars. Vous voyez à quel point? Pourquoi? Parce que l'âme de l'homme a besoin d'être conduite par un berger. Si elle n'a pas de berger, elle a des clôtures. Et quand les clôtures ne sont pas là, c'est la pagaille et la destruction en collectif. Quand Jésus nous regarde, il ne nous propose pas de nous imposer des règles et des lois. Il nous propose une relation avec lui parce que c'est un bon berger. C'est quelqu'un qui a une capacité en lui de me dire « Viens par ici, allez, change. » Il a la patience, il a la vérité en lui. Jésus a ce regard et cette attitude. Quand j'ai fait l'expérience du Seigneur il y a longtemps, j'ai été pendant 3 mois, j'étais extrêmement indépendant de caractère. J'avais mes projets et tout. Je me suis battu pendant 3 mois. Et puis j'ai accepté. J'ai accepté qu'il soit mon maître. Et pratiquement, j'avais bien vu que je n'étais pas bon par moi-même. J'avais bien vu que je n'étais pas sur le chemin que je pensais être. Et avec lui, je savais que j'étais sur le chemin de ce que je voulais, de ce que je désirais au fond de moi-même. C'est avoir une vie de qualité, une vie qui réussit. Un amour durable. Et faire quelque chose de beau dans ma vie. Donc le berger n'est pas là pour me détruire, il est là pour me faire du bien, les amis. Il est là parce que c'est le meilleur pour moi. Voilà Jésus. Et cette foule l'avait compris. C'est pour ça qu'elle se passait des frites, des hot dogs, des boîtes de coca. Et dans la prairie, ils n'avaient que de l'eau. Et tout d'un coup, bien sûr, Jésus s'est dit, mais ils n'ont rien. Alors il dit, donnez-leur à vous-même à manger. Il les met à l'épreuve. C'est pour voir s'ils vont opter pour Satan ou pour lui. Parce que rappelez-vous, quelques temps avant, peut-être un an avant, Jésus était dans le désert et Satan vient, ben, tu les vois bien tous ceux-là, les crèves la faim sur la terre, change les pierres en pain et donne-leur à manger. Et Jésus n'a pas changé les pierres en pain. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus ? Il a mis Dieu le Père à l'œuvre parce qu'il est un avec son Père. Il a mis Dieu, le Père, à l'œuvre pour nous montrer l'amour du Père envers nous. Jésus nous révèle l'amour du Père envers nous. Et ils ont eu à manger. Ils ont pu retourner tranquilles à leur maison, à leur tâche. Et ils n'ont pas eu trop à manger, ils n'ont pas fait de l'obésité après. Ils n'ont pas piqué plein de pain pour aller les revendre aux autres, etc. Non, ils ont mangé, c'est tout. Le contentement et la piété, dit Paul, sont source d'un grand gain. Le contentement et la piété sont source d'un grand gain. Le contentement, on a ce qu'il faut pour manger, le reste, on ne va pas devenir cinglé avec tout ça. L'essentiel, on a le Christ en nous, on a connu Jésus, on va continuer à vivre avec lui, et la piété, c'est-à-dire, on va chercher à l'aimer, on va chercher à obéir à lui, on va chercher à le connaître. C'est ça la piété. C'est pas réciter des chapelets, mais des statues, mais à genoux, traîner sur le ventre, hein, et faire des grands carèmes ou des ramadans. Non. Alors, voilà, c'est Marc chapitre 6. On va aller un peu plus loin dans la parole de Dieu, les amis. Dans Marc au chapitre 8, c'est un peu dans la continuité. Marc chapitre 8, verset 2. Je suis ému de compassion pour cette foule. Voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, ils n'ont rien à manger. Quand vous regardez près de moi, quand vous regardez le mot près de moi, et que vous regardez quelques chapitres avant, l'appel de Jésus pour ses disciples. Hein? Jésus appelle ses disciples pour qu'ils soient avec lui. Avec lui. Quand on regarde dans le texte en grec, koinonia, ça veut dire en communion. Qu'est-ce que je cherche le plus? Si réellement, moi je me suis marié à 32 ans, j'aurais pu me marier à 20 ans, 22 ans. À l'école normale, il suffit de tourner le regard. Oh, les jolies mini-jupes. Oh, les jolies ci, les jolies ça. Pouf! La mouche se fait attraper par l'attrape-mouche. Mais pratiquement, j'aimais le Seigneur et je ne voulais pas ça. Pourquoi? Parce que les mini-jupes ne me donnent pas la communion pour la vie. Ce que je souhaitais, c'est ni une femme qui me mène par le bout du nez, hein, ni moi que je la prenne pour un torchon. C'était la communion qui m'intéressait. Et où la trouver, les amis, la communion? Ben, il faut prendre le temps d'attendre de trouver la communion. La communion, c'est quelque chose, c'est un don de Dieu. Parce que dans le monde ici, l'amour, c'est une grande escroquerie. C'est à celui qui aura l'autre. Depuis le péché d'Adam et Ève, la plus belle des choses, qui était l'amour conjugal, est dénaturée. Ça finit toujours par une relation de puissance, de domination, d'un ou l'autre. L'amour est devenu la plus grande escroquerie. Pourquoi? Parce que le péché est le vice qui tue l'amour. Donc, il faut trouver, pour avoir la communion avec un être pour sa vie, il faut trouver quelqu'un dont le péché est tué, est crucifié. Il a aimé Jésus plus que lui-même. Le péché n'a pas d'importance pour lui. Il aime la vérité. Il aime ce chemin où le péché ne va pas dominer sur lui et sur l'autre. Évidemment, il faut l'honnêteté de le dire. Il faut, quand on est chrétien, perdre tout esprit de domination et il faut rentrer dans un esprit d'offrande, un esprit de compassion, d'abnégation, d'humilité. Ça, c'est un chemin de Jésus. Jésus est puissant en humilité. Jésus est puissant en vérité. Jésus est puissant en amour, en compassion. Seul lui peut me donner tout ça. Regardons dans Marc chapitre 8, verset 2. « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie à jeun chez eux, leurs forces leur manqueront en chemin. Quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui dirent, comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert? Ça y est, panique. Hein? Nous avons accueilli ici beaucoup de monde pendant 39 ans. Il n'y avait des fois rien dans le frigo. Il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait rien. Et on avait 6 enfants. Il n'y avait qu'une chose à faire, les amis. C'était de se remettre au Seigneur. Cette nuit-ci, je me suis encore levé, j'ai fait mes comptes et puis j'ai mis en dessous « Au secours Seigneur ». Mais ça fait 40 ans que je le fais. « Au secours Seigneur ». Je l'avais fait déjà dans la semaine. Et qu'est-ce que je trouve sur le mur à la cuisine, entre la cuisine et le salon? Une enveloppe. Je ne porte pas d'importance à l'enveloppe, mais je la laisse. Je dis « Bon, c'est quelqu'un qui l'a mis là, c'était de Marie-Hélène ». Et puis pour finir, au bout de 2 jours, on l'ouvre, il y avait quelqu'un qui avait mis 500 euros. Bon, nous, dans notre chemin à nous, en étant en communion, en principe, Marie-Hélène et moi, en principe en communion, puisque c'est sur cette base-là qu'on s'est rencontrés, pratiquement, la communion est don de Dieu, pratiquement, on va dire, l'Église a besoin. Eh bien, 300 pour l'Église, 200 pour nous. Oui, 200, parce que ça sera toute la nourriture de tout le mois de février pour nous et tous ceux qui passent à la maison. Voilà. Et 300, ben pour l'Église, elle a besoin aussi. Elle a des frais, elle a des tas de choses. Et quoi? Oh, on va garder 500 euros, c'est à nous. Non! Ni Marie-Hélène, ni moi n'a pensé ça. Pourquoi? Mais parce que Dieu est grand, il a compassion de nous, et il redonnera au moment voulu ce qui a besoin. Et en plus, on va rencontrer peut-être quelqu'un qui a besoin de 100 euros, 150 euros, sur nos 200. Oh, oh. Oh, ils ont complètement marteau! Mais ça fait des années que je leur dis de penser à eux. Mais ils n'ont pas de sagesse, ils sont fous. Mais oui, l'Évangile, c'est la folie. C'est la folie. Jésus, il était bien dans son ciel. Pourquoi il est venu sur la terre? Parce qu'il était fou. Un jour, une gamine de 11 ans, à un camp, me dit, Jésus est un fou, un orgueilleux. Femme, dans le nez, comme ça. Hein? Avec des yeux d'acier. Ah bon? J'ai bien vu qu'il y avait une puissance spirituelle, une puissance démoniaque derrière ça, la façon dont il parlait. J'ai dit, je prierai pour toi que tu changes un jour. Mais le temps n'est pas encore venu, à 11 ans. Elle aura peut-être 45 ans, ou 50 ans, ou 60 ans, elle se sera bien cassé le nez, et elle reviendra tout d'un coup à la porte ici, on se parlera, ou elle m'appellera, on priera ensemble, et ça sera fini. Elle aura fini sa comédie violente. Sa comédie, son refus de laisser parler celui qui n'est pas comme nous. Celui qui n'est pas comme nous, qui nous apparaît pour un fou, et qui ne l'est pas du tout. Qui ne l'est pas du tout. Alors vous voyez dans ce récit, qui tient avec l'autre, Jésus va rendre grâce à son père. C'est ça le verset qui m'intéresse, verset 6. Il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit, il les donna à ses disciples pour les distribuer. Ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons, et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent, furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient, ils étaient environ 4000, plus tous les autres. Nous sommes peut-être à 15-20 000. Pratiquement, le mot « petit morceau », les corbeilles pleines de morceaux, c'est « klasmata » en grec. C'est le même mot en grec lors de la Sainte Cène. Juste avant que Jésus ne donne sa vie sur la croix. Alors, Jésus n'a pas joué à comédie. Quand il y a ce miracle du pain, il se donne déjà. Jésus n'a jamais fait du théâtre. C'est pas un des candidats aux primaires. Hein? Il ne fait pas la comédie. Il se donne à nous. Pouvez-vous refuser quelqu'un d'aussi grand qui veuille venir dans votre vie et qui se donne à vous? Ben moi, trois mois. J'ai résisté 3 mois. Ben oui, hein. Je suis bien capable de mener ma vie moi-même. J'avais des projets, j'avais tout tricoté dans ma tête depuis plusieurs années. Ah ben... Et je rentre une fois dans ma chambre, je passe devant le crucifix, parce qu'à cette époque-là, j'avais encore un crucifix, j'étais encore pas d'origine catholique. Et je dis, comme ça devant la croix, depuis que je te connais, je n'ai que des emmerdes, tu m'emmerdes. Voilà le Belge que j'étais, ou le Français que j'aurais pu être. Et je suis rentré dans mon lit, j'ai mis ma couverture, et puis il y a une petite voix dans mon cœur, ça c'est le Saint-Esprit, heureusement. Heureusement que Dieu a dit, je ne t'ai jamais fait de mal, je t'ai toujours aimé, pourquoi est-ce que tu me parles comme ça? J'ai pleuré, et puis après un certain temps, j'ai dit, Seigneur, je suis comme un voilier, un bateau avec un mât, et les voiles sont reliées. T'as beau souffler, le bateau n'avance pas. Seigneur, cette nuit-ci, j'ouvre les voiles, tu peux souffler dedans, mène-moi où tu veux. Et le lendemain, je me suis levé, j'avais plein d'amour pour mes parents et pour à l'école normale, pour tous mes copains. Et un jour, plusieurs mois après, tous mes copains m'ont dit, on était dans la campagne, dans une prairie, on avait notre diplôme, on avait été chercher une baguette française et une bouteille de vin, un camembert, on était là, on était bien. Dis, on ne comprend pas, il y a un jour tu n'étais plus le même. Tu ne peux pas nous expliquer. Tu n'étais plus le même. Donc, tous ces lascars-là m'avaient vu changer du jour au lendemain. Hein, et il a fallu cette circonstance-là pour qu'il me pose des questions. Les amis, il faut se laisser faire par le Seigneur. Il a l'art de nous rendre meilleurs. Et je dirais plus que meilleurs. Sauvés. Passons à un autre chapitre de Marc. Il y a tout le problème, bien sûr, de tous ces gens qui vont dans la prairie, là-bas, à l'autre bout, qui ont mis le paquet pour le suivre. Mais il y a celui-là qui a tout calculé, lui. Il a déjà tout calculé. C'est un gars qui réfléchit depuis qu'il est gosse. Oh Dieu, c'est quelqu'un de sérieux. Il faut que je fasse les choses sérieusement. Mais il a quand même un problème, vous allez voir. Dans Marc chapitre 10... Verset 17. Marc, chapitre 10, verset 17. Ça, c'est. Il y en a toujours un peu partout comme ça, des pareils. Mais ce n'est pas la majorité. La majorité, en général, se laisse aller un petit peu. Comme les moutons dans le pré quand la barrière est ouverte, quoi. Ils ne savent plus où ils en sont, boum. Jésus passe par là, heureusement. Mais il y a l'autre qui dit ben, moi, j'aime bien la culture, j'aime bien tout, il n'y a pas de trou, hein, moi, j'ai bien gagné, je suis intelligent, j'ai bien fait tout. Mais quand même, il y a quelque chose qui se pose pour lui. Chapitre 10 de Marc, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Donc, il le taquine, là. Hein? Il le taquine. Vous croyez, moi, pendant des années, j'ai lu l'Évangile et tout ça. Mais pour que je perçoive tout d'un coup que Jésus est Dieu, il faut une révélation. En attendant, il me taquine. Il veut que je laisse tomber tout. Les masques. Alors, le moment venu d'être avec Jésus, Dieu seul le connaît. Moi, je ne le connais pas. Et quand ça a été là, j'étais fauché. Hop, j'étais cueilli comme on cueille des fleurs. Alors, Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne déroberas point. Donc, vous voyez, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Vous voyez, il a une bonne clôture, lui. Et il ne passe pas la clôture, lui. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Il lui dit, il te manque une chose. Alors, le jour que... C'est ça qui est très important, les amis. Le jour que vous percevez l'amour de Jésus, le jour que vous percevez ce qu'il est, alors là, ne crachez pas dans la soupe. Ne dites pas, ça ne m'intéresse pas. Parce que vous allez à vos malheurs. Vous allez à vos malheurs. Je prends un exemple. J'ai 50 km pour aller travailler. J'ai une belle voiture devant la porte. L'assurance, tout est payé. Il y a la clé de contact dessus. Non, je vais à pied. Là, je vais à pied. Et au soir, je reviens à pied. Oh. Dans la maison, il y a une belle machine à laver. Non, je vais laver mes linges à la rivière. Et puis, après le boulot, et puis je reviens. Et puis, je les mets sécher au milieu de la cuisine. Et puis, etc. Non, vous faites aller à la machine à laver. Non, vous prenez l'auto. Pourquoi se priver du progrès? Pourquoi se priver de quelque chose? Pourquoi se faire souffrir? Et donc, pourquoi se priver de Jésus? Pour se faire souffrir? Pour s'empoisonner l'existence? Éternellement? Ça n'en vaut pas la peine. C'est de la sottise. C'est de la folie. Alors, regardez, ce que je vois, c'est que Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Est-ce que Jésus lui a dit de lui verser sur son compte en banque? Est-ce que Jésus lui a dit, amène-moi ton fric, on va faire une bonne église avec un bâtiment de 150 mètres de haut, on va mettre du marbre et des beaux carreaux, des vitraux? Non! Non! Pas du tout! Le distribuer aux pauvres. Ça, c'était mieux que Satan, les pierres changées en pain, et puis après, hop, tous les pains pour moi, et je les revends. Ça, c'est le mouvement inverse de Satan. La générosité, la miséricorde, la compassion des autres, c'est le mouvement inverse de ce monde, où tout le monde, le monde de Dieu est un monde d'amour, qui veut gagner le monde, à l'amour divin. Et donc, Jésus, dans son amour infini, dans son regard, lui dévoile l'amour de Dieu. Je supplie le Seigneur, pour vous tous, comme pour moi, de toujours croiser le regard du Seigneur Jésus. Sans ça, vous croiserez le regard du diable un jour. Et il est effrayant. Alors, nous allons aller un peu plus loin. Nous allons dans Luc. Dans Luc chapitre 10, verset 21. En ce moment même, Luc chapitre 10, verset 21. Luc était un médecin grec. Hein? Un médecin grec. Il n'a pas connu Jésus. Il a connu l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre. Les gens. Il a arrêté sa profession pour suivre le Seigneur. Et pourtant, il avait le savoir, il avait l'expérience et tout. Il y a quelques années de ça, il y avait un couple qui est venu à la grange à l'Institut. Le docteur était anesthésiste, donc vous imaginez, il a 15 ans d'études, hein, après le bac, à peu près. Et sa femme était médecin aussi. Et alors, ils font un nom. Vous savez, souvent, il y en a qui rentrent à l'Institut, ils vont faire un nom, on ne sait jamais. Hein, on va se prêter à Dieu, mais se prêter ou se donner, ce n'est pas la même chose. Hein. Alors, au bout d'un an, difficile de dire qu'est-ce qu'on fait. La profession est là, les avantages, etc. Puis on peut être dans une église quand même, on a fait un an d'institut, on sait déjà faire quelque chose avec le pasteur. Alors pratiquement, il y a un des professeurs qui me dit, mais j'aimerais bien qu'il continue, mais quoi ? Ben écoute, moi je n'avais pas le temps, je ne faisais que de passer pour une demi-heure. Écoute, tu leur poserais la question, est-ce que la Bible serait la même s'il n'y avait pas les actes des apôtres et s'il n'y avait pas l'évangile de Luc ? Une Bible sans l'évangile de Luc et sans les actes des apôtres. Si on l'a lu, qu'on a bien réfléchi sur ces deux, eh bien, c'est pas la même Bible. Hein? Alors, tu leur poseras la question. Si Luc avait continué son boulot en disant « Je fais du bien aux autres, c'est bien, etc. » Eh bien, il n'avait pas écrit les Actes des Apôtres, ni Luc. Il n'avait pas fait connaître la parole de Dieu chez les Grecs. Et au monde chrétien, il n'avait pas expliqué ce qu'avaient fait les apôtres au début de l'Église. Il n'avait pas donné une ligne directrice. Aux chrétiens du début du christianisme. Des médecins, il y en avait assez à son époque. Il pouvait quitter son boulot. Il y en avait assez, il y en aura toujours assez. Mais lui, il avait un chemin avec le Seigneur. Comme le gars là, juste avant, il l'aima, viens, suis-moi. Et tu auras un trésor dans le ciel. Ben oui, avec moi, tu auras le trésor. Eh bien, pratiquement, ils ont fait les 3 années. J'ai dit, tu leur diras ça. C'est tout. Je suis parti. Les grandes discussions des fois ne servent à rien, mais un coup de bistouri, on ouvre, on tire le pus, on met un désinfectant, on recoupe. Ça y est. Il y a des choses que Dieu nous demande, et vous ne pourrez pas dire, avoir une excuse en disant, oh, c'est un autre qui le fera à ma place. Nous sommes... Ah, on dit qu'on n'est pas indispensable dans le royaume de Dieu. Pourtant, Jésus nous a assigné une place à chacun de nous. Dieu nous a assigné une place à chacun de nous. Elle n'est pas la même que celle du voisin et de la voisine. Dieu, dans son infinie intelligence, il connaissait l'âne sur lequel il allait monter 6 siècles avant, dans Zacharie, pour rentrer à Jérusalem. Le petit de l'âne, hein ? Eh bien, ce n'était pas le même ânon que les autres ânons. C'était celui-là. Les amis, pour Dieu, ce qu'il a voulu, ce qu'il a désigné, ce qu'il a choisi, c'est ça et pas rien d'autre. C'est ça et rien d'autre. Et c'est ainsi pour nous. Quand je croise le regard du Seigneur Jésus, on va faire ça. Oh, c'est peut-être l'autre à côté de moi, c'est peut-être là l'autre derrière. Moi, ça m'est arrivé une fois à une réunion de prière. Je m'étais attardé dans le chemin de ma vie à créer une entreprise, à être occupé. Et puis on voit une réunion de prière où il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'évangéliques. C'était la première fois qu'on y allait. Et puis voilà, un des pasteurs m'avait dit, il faudrait que tu ailles, tu as quelque chose à demander à Dieu, il faudrait que tu ailles avec ta femme à l'imposition des mains et demander à Dieu ce que... Hein? Pas des pneus 9 fois de l'auto, hein? C'est pas ça. Et simplement, et le pasteur avait prié, il nous avait dit, le Seigneur connaît votre chemin, marchez avec les forces du Seigneur. Il va vous le montrer. Et pratiquement... Après, pendant une demi-heure, j'étais en train de regarder à gauche et à droite en me disant « C'est peut-être pour celui-là, c'est peut-être pour celui-là. » J'étais en train d'essayer de me débiner. Il m'a fallu. Je suis sorti. J'ai mis toutes les valises dans l'auto. J'ai fermé le coffre. J'ai dit à ma femme « Viens, on va s'en aller dans les premiers. » Il y avait tellement de monde. Il n'y avait qu'un chemin. Il a fallu que des sapins, des gros sapins, hein, d'1m30, 1m20 de diamètre, soit cassé devant moi par le vent, par une tempête, brutalement, hein, et coupe tous le chemin, une 15aine de croix. Et j'ai dit, Seigneur, je sais que tu ne veux pas que je parte. Il faut que j'aille revoir le pasteur, il faut que j'aille revoir les personnes. J'ai été calé 3 heures là, j'ai dû aller demander conseil à plusieurs. Et on m'a dit, demain tu commences à servir le Seigneur. Tu as compris ? Et tu ne recules plus. Alors les amis... Et effectivement, le lendemain, à 7h du matin, le téléphone sonnait. On m'appelait en psychiatrie pour quelqu'un qui s'était jeté de 15 mètres du toit et qui s'était loupé. Il a fallu aller prier avec lui. Je me suis mis à genoux avant de partir. Oui, Seigneur, puisque ça commence aujourd'hui, sois avec moi. Est-ce que vous, quand vous partez au travail, quand vous vous levez, Seigneur, sois avec moi. Sois avec moi. Rends ma journée féconde. Rends mes rencontres puissantes. Agis, Seigneur. Fais du bien aux autres. À travers moi, que je dise quelque chose qui leur fasse du bien. C'est ça, vivre avec le Seigneur. C'est ça le ministère des chrétiens. C'est ça le ministère des chrétiens. Et les amis, regardez, Luc chapitre 10, verset 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. » Vous voyez, si aujourd'hui vous avez compris que nous ne sommes pas sages par nous-mêmes, ni intelligents, si on a des capacités, on a des capacités. Mais c'est comme une voiture sans clé de contact. C'est comme une maison sans toit. Il faut le tout. Il faut Dieu avec nous. Alors, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce que tu les as révélées aux enfants, donc aux humbles. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, donc Jésus, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Que veut faire Jésus ? Me révéler le vrai Dieu. Le vrai Dieu d'amour, de vérité, qui m'a mis sur la terre. Je ne suis pas né par hasard, par accident, ni mes enfants. Je ne suis pas là comme une brebis perdue. Le Seigneur m'aime et il veut se révéler à moi. Il veut me révéler Jésus. Il veut me conduire dans la vie pour le meilleur. Est-ce que je peux cracher sur le meilleur ? Puisque souvent j'ai connu le pire. Sans lui. Mes amis, ce grand Dieu, ce Jésus de Nazareth, n'a jamais eu une armée, ni une banque, ni rien du tout. Et ce Jésus de Nazareth est plus grand que n'importe qui, par son état de vérité. Et tout le monde pliera les genoux. Tout le monde. Deuxième aux Corinthiens. Et on en a fini. Deuxième aux Corinthiens. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'un banquier, si riche soit-il, plus on est riche, je vais vous le dire, plus on a des biens, plus on est pauvre en soi, plus on est hanté par l'argent pour le garder, pour le faire fructifier, plus on est omnubilé par ça. Et sans le savoir, plus les puissances du malin sont sur nous. Les puissances des démons sont sur nous. C'est comme dans le domaine de l'impureté. Chaque fois qu'on trempe dans l'impureté, le démon prend des autorités sur nous et on n'est plus capable de se maîtriser. Et bien dans l'argent, c'est la même chose. Plus on fait des affaires d'argent, plus on va être sollicité pour tricher, pour faire des détournements, etc., des combines. Même le plus honnête en affaires s'y perdra dans ce monde. Et l'argent, derrière, il y a un maître puissant. Mais pour nous, si nous vivons humblement dans ce monde, comme à l'époque du premier christianisme, nous avons en face de ces gens-là une richesse qu'ils n'ont pas. Nous avons le Seigneur Jésus. Il y a des personnes très riches qui sont déjà venues chez nous, et il y en a qui reviendront. Mais ils sont extrêmement pauvres, les amis. Quand ils sont paumés, vous verriez à quel point ils sont. Nous, on l'a vu ici. Je ne veux pas citer de nom, ça ne se fait pas. Vous verrez à quel point ils sont paumés. Ça ne leur apporte rien, en fait. C'est que du vent. Eh bien, regardons-nous notre trésor. Dans la deuxième aux Corinthiens, chapitre 4, verset 6. Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Ça, c'est Genèse, chapitre 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit. Hein? Et ce n'est pas le mot crier, c'est se manifeste. C'est une lumière incriée dans Genèse 1, 3. C'est la lumière de Christ qui se manifeste à tout le crier. Et c'est ici que Paul l'explique. Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Quand je rencontre Jésus, tout d'un coup, ça la révélation. C'est ça le don de la foi. Je découvre la gloire de Dieu sur Jésus de Nazareth. Je découvre la gloire de Dieu sur Jésus. Et cela fait resplendir à mon cœur la connaissance de Dieu. Cela fait resplendir en moi quelque chose que je ne connaissais pas. Resplendir, ce n'est pas une lumerotte, ce n'est pas une petite bougie. Resplendir, c'est éclater de lumière. Nous portons cette lumière qui vient de Jésus et qui est de Dieu. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Donc, Les quatre personnes qui étaient là dans le bois hier, qui travaillaient, quand ces personnes, qui sont habituées au grand monde, au beau monde, comme on dit, pas toujours si beau que ça, en fait, mais ce qu'il y a, qui paraissent beaux, eh bien, quand ils s'approchent des quatre là, puissent-ils voir, un peu comme le ver luisant dans la nuit, là. La nuit, en été, il y a des vers luisants qui ont accaparé la lumière du soleil et qui la rendent la nuit. Eh bien, puissent-ils voir dans leur monde de ténèbres, de fric et de fricailles et tout le reste, de gueuletons et tout le reste, de réunions de conseils d'administration et tout, hein? Ils puissent voir, tiens, ces quatre-là ne sont pas comme les autres. Ou dans les quatre, il y en a un ou deux ou trois qui portent en eux une lumière. C'est bizarre. Quand ils viendront travailler, je retournerai tout près d'eux. Ils m'intriguent, ceux-là. Tout ce que Dieu a fait de humble sur la terre est nécessaire à la gloire de Dieu. C'est un vase de terre. Il ne nous a pas fait en cristal. Nous, chrétiens, nous sommes des pécheurs. Et s'il a mis en nous, vase de terre, un immense trésor, cette lumière de Christ, c'est que cette lumière passe à travers nous, comme à travers les parois d'un pot en terre. Cette lumière est plus forte que nos obscurités. Elle est plus forte que nos limites. Nous devons donc faire confiance à l'œuvre de Dieu en nous. Nous ne sommes pas chrétiens parce que nous sommes meilleurs que les autres. Nous sommes chrétiens parce que le Christ vient dans notre vie et que malgré nos faiblesses et nos imperfections, la lumière de Christ se donne aux autres. Elle est nécessaire aux autres. Voilà, les amis. Voilà ce qui est mis ici. Voilà ce que Paul dit. Quand Dieu a dit dans Genèse 1:3, la lumière brillera du sein des ténèbres, la lumière brillera à travers les humains, parce que je mettrai Christ dans leur vie. Je vous souhaite, chers amis, de comprendre que Jésus est plein de compassion pour nous. Il nous aime, il veut venir dans nos vies. On dit en anglais « welcome », en allemand aussi « welcome ». Comment on dit « bienvenue » en afghan ?
Khosh-Ahmadit.
Khosh-Ahmadit. Et dans ta langue, c'est quoi ?
Wézon.
Hein ?
Wézon.
Tu viens de quel pays ?
Togo.
Togo. Wézon. Et toi, dans ta langue ?
Osseletou.
Et toi ?
Caribou.
Caribou. Alors, caribou, ça c'est pas mal ça. Alors, vous voyez bien que, quelle que soit notre origine, nous sommes tous appelés à dire bienvenue au Seigneur. Bienvenue.
Soit en roumain. Non, pas en roumain.
En hongrois.
En hongrois. Ça veut dire, mon Dieu, il t'a fait bienvenue. Ishtar Rosot.
Ishtar Rosot.
Rosot.
Ah oui.
Mon Dieu, il t'a ramené bienvenue.
Et bienvenue en italien.
Benvenuti.
Il y en a encore des autres ici, non? En anglais, c'est welcome, hein? Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous avons une grâce exceptionnelle. C'est de pouvoir dire, oui, Seigneur Jésus, viens dans nos vies. Et tu peux faire tout le reste. Nous te remercions infiniment pour ton amour. D'être venu par les hommes et parmi nous, de nous adresser ta parole, ton amour, de vouloir te donner à nous. Seigneur, notre foi chrétienne, c'est toi, Seigneur, l'absolu, dans nous, le relatif. C'est toi, Seigneur, la lumière du monde, dans nous, vase de terre. Mais Seigneur, ô combien il est bon de te recevoir en nous et de t'aimer. Et d'être une brebis qui marche derrière toi avec ta voix, au bruit de ton bâton. Et nous n'avons pas besoin de chien. Tu nous suffis, Seigneur. Amen.